RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Bang! Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 133 de Basket Time, votre rendez-vous hebdomadaire, tous les mardis, disponible en podcast sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, une émission consacrée aux Denver Nuggets et son joyau Nikola Jokic. Pour m'accompagner, à 20 ans près, il aurait été l'arme ultime pour stopper Jokic, c'est Fred Weiss.
Bonjour, salut Fred. Bonjour, ça va?
Tu le mangeais, Jokic,
Non, peut-être pas. Les Nuggets, oui, mais Jokic, moins.
Il a effectué sa première sélection en bleu face à l'ancien rookie des Nuggets, surnommé le Charles Barkley lituanien, Linas Kleiza. C'est Stephen Brun qui est avec nous.
Salut Arnaud.
J'ai été loin. Hein.
Bon, rigole, je sais pas si tu m'as sorti ça sur la Strasbourg.
Je l'ai lu sur un site, un article de la Fédération après ce match, surnommé le Charles Barkley lituanien.
Je croyais que c'était un site de rencontre, donc t'inquiétais quand même.
Et figure-toi,
à Strasbourg, c'était toi à Strasbourg.
Exactement, ouais. Claude Bergeau, tes premières minutes, j'ai retrouvé l'archive de l'article de la Fédération de l'époque.
Bravo Arnaud.
Et attends, c'est pas fini, puisque vous étiez tous les deux là,
oui,
Fred,
oui, sans doute.
Match contre la Lituanie, et voilà la déclaration de Fred Weiss après ce match. L'important, ce n'est pas mes 14 rebonds, l'important, c'est l'équipe. Match après match, nous prouvons que nous pouvons former un vrai bloc défensif.
Quel faux cul.
C'est beau, franchement, c'est beau.
Parler d'un bloc défensif alors que j'étais dans l'équipe, c'est magnifique, go.
Je t'avais inclus.
Et derrière, la Coupe du Monde au Japon, 2006.
Ouais, moi, je suis resté en France. Hein.
Oui.
Je dis au revoir à Fred, bon voyage.
Bon, vous êtes revenu rapidement, enfin... Hein,
alors, non, c'est pas si mal que ça, t'es dur.
Oui.
T'es dur, en plus, Tony était pas là, on avait fait une compétition plutôt correcte.
Avec un très bon Yannick Bocolo en match d'ouverture, oui, contre l'Argentine, c'était
ouais, c'est ça. Ouais.
Enfin, pour compléter notre racket All-Star, un homme qui connaît la NCAA par cœur, la NBA aussi, mais qui avait donc vu Jamal Murray et Michael Porter Jr. arriver avant tout le monde, c'est Alexandre Biggerstaff.
Salut Arnaud.
J'ai pas tort sur...
Salut Alex.
Non. En fait, je suis juste frigorifié, j'ai vu que t'as mis la température de Denver vraiment en studio pour qu'on soit dans l'émission, quoi.
Ah, tu vois, un mile de...
<C'est ça>.
D'altitude. Les Denver Nuggets, podcast consacré donc à cette franchise dont on n'a pas encore parlé cette saison, un peu en filigrane avec Nikola Jokic, mais c'est le meilleur bilan à l'Ouest, le troisième de la NBA, contender évidemment, mais peuvent-ils aller au bout? Et surtout la question qui fait parler à deux mois de l'échéance, Nikola Jokic va-t-il remporter un troisième titre de MVP de suite? Vous donnerez également, messieurs, votre 5 majeur historique des Nuggets, pas trop dur?
Non,
il n'y a pas beaucoup de...
Ouais. Ça va.
Il y a des bons joueurs quand même. Mais
il y a des bons joueurs, il y a des bons joueurs.
Peut-être pas trop méconnus ou sous-cotés.
Plus facile,
ou
plus facile de faire Denver que les Celtics ou les Lakers, par exemple.
Oui, c'est clair.
C'est sûr, il y a un peu moins de choix.
Exactement.
Le quiz consacré aux Nuggets et à Jokic, difficulté 3,5.
Je me mets sur combien, voilà,
5,
ça.
5.
Ouais, c'est pas mal quand même.
Tout le monde aura sa chance, c'est un petit peu varié. Voilà, y aura...
C'est l'école des fans, quoi. Tout le monde aura sa chance.
Bah exactement.
Tout le monde repartira avec un cadeau.
Je suis un peu un passeur, je veux vous faire briller, tu vois.
C'est ta qualité, ça, la passe?
Moi, j'aime bien la passe. Le rebond, la passe. Moi, j'ai pas de tir, donc.
Oui, c'est pour ça, surtout. C'est le mec qui dit j'ai rebond à passe parce que t'as pas de tir, quoi.
Bah exactement. Okay. Écoute, je suis un peu le Rajon Rondo du pot.
Il n'y a pas de problème avec ça.
Pardon.
Allez, c'est parti pour Basket Time numéro 133.
Rebound Jokic, he's got 5. Galloping, driving, firing!
Un peu plus compliqué que ça.
C'est, vous m'avez saoulé.
Jokic on the run, he puts it away! Jokic doubled, rips through and lays it up and in.
C'est quand même le pire des arguments que tu viens de me sortir.
Jokic against Green. Nikola rainbows one over Draymond.
C'est ce qui ne me plaît pas en NBA.
Jokic gets past Davis and throws it down.
Jokic 4 on the clock, round his man, lay it up and in, yes! And a foul!
Même pas t'essayes!
Évidemment, hommage à Pierre Dorian, on va en parler dans un instant, parce que faire une émission, si vous êtes habitué du podcast, le titre de double titre de MVP de Jokic fait beaucoup parler le patron Pierre Dorian. Mais avant, un point sur la saison du Joker, Alexandre, ses stats et surtout, où se place-t-il dans la course au MVP?
Alors, tout va bien pour Nikola Jokic, presque 25 points en moyenne par match cette saison, il est dans le top 20 des meilleurs scoreurs, 11,7 rebonds, 3e de la Ligue, 10 passes décisives en moyenne. Vous l'avez compris, c'est un triple-double chaque soir de match. 63% de réussite au tir. Il est dans le top 7. Bref, il est dans toutes les meilleures catégories, bien entendu. Nikola Jokic, c'est surtout au niveau de la passe hein, que ça percute cette saison, parce qu'il a un petit peu baissé ses moyennes par rapport à ses deux dernières saisons au niveau des points, mais c'est sa meilleure saison en carrière au niveau des passes décisives. Donc on le disait, 10 en moyenne par match, c'est la première fois qu'il est sur ce seuil là on va voir s'il tient le coup jusqu'à la fin de la saison. C'est aussi sa meilleure saison en carrière au pourcentage à 3 points. Il frôle les 40%, c'est mieux qu'en 2018 qui était sa meilleure moyenne notamment. Et puis il tente beaucoup moins, en fait c'est ça qu'il faut décrypter dans son jeu. Il tente beaucoup moins à 3 points cette saison, quasi pareil que lors de sa deuxième saison dans la Ligue qui remonte à 2016-2017. 3 tirs de moins en moyenne par match que lors de ses deux précédentes saisons où il a terminé MVP. Donc c'est un Nikola Jokic, si on pouvait le penser encore, se questionner, encore plus altruiste et passeur qu'auparavant. Juste pour rappeler, dans la course au MVP, il est actuellement en tête évidemment de tous les classements et pronostics, devant Joel Embiid de Philadelphie, devant Giannis Antetokounmpo, devant Jason Tatum et devant Luka Doncic. Pour rappeler juste, Arnaud, que la dernière fois qu'un joueur NBA a remporté 3 fois de suite le trophée de MVP, c'était Larry Bird en 1986, et c'est un cercle très fermé puisque seul Wilt Chamberlain et Bill Russell l'ont fait avant, et il est bien parti pour.
Merci Alex. Alors il y a évidemment deux questions, Stephen, c'est doit-il l'avoir ? Là on peut évidemment s'exprimer. Et va-t-il l'avoir ? Ou là on se projette un petit peu, parce que effectivement dans une ligue nord-américaine, donner 3 fois de suite un titre de MVP à un étranger, ça s'est jamais vu.
Alors, peut-il l'avoir ? Oui, parce que les chiffres sont ahurissants. Son impact sur l'équipe et sur les résultats de Denver, qui est en tête à l'Ouest, est ahurissant aussi. Les chiffres, quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain aussi, sont déterminants pour cette équipe de Nuggets. Maintenant, moi, je suis contre lui filer une troisième fois. Parce que, Alex l'a dit, le cercle très fermé des Russell, Chamberlain et Larry Bird, mais ces garçons-là, ils ont quand même fait bien plus de choses collectivement que le Serbe. Et ça me gênerait qu'un mec rentre dans une caste comme ça, très fermé, alors que ces mecs-là ont gagné les titres NBA avant d'avoir trois titres de MVP. C'est pas anodin, en fait, d'avoir trois titres de MVP. Et il y a ce côté, je pense, il va payer ce côté lassitude des votants. C'est qu'à un moment donné, Giannis aurait pu être trois fois MVP aussi. Il l'a pas été parce qu'à un moment donné, bon, bah voilà, c'est sympa, Giannis sur Antetokounmpo, mais bon, si on te le fait trois fois, ça veut dire que tu rentres parmi le gratin de la NBA. Donc il va payer ça, et moi, ça m'embêterait que Jokic soit... Il serre la main à Larry Bird, enfin plus maintenant à Chamberlain ni à Bill Russell, mais qu'il soit sur la même ligne que ces mecs-là sans avoir eu le moindre titre de champion NBA. Donc ça me gênerait. Maintenant les chiffres sont là, il peut l'être, mais sauf qu'il y a aussi beaucoup de concurrence, mine de rien. Joel Embiid, Giannis, Tatum, Doncic à un degré moindre, il y a beaucoup de concurrence, il va payer ça aussi. Donc moi je ne suis pas pour que Jokic soit trois fois MVP,
sachant que ne pas le donner, on se souvient, Kobe n'a qu'un titre de MVP, Shaq n'en a qu'un, et ils ont aussi peut-être souffert un peu de cette image. Ils sont dominants, mais on n'avait pas trop envie de leur donner. On se souvient d'un épisode avec Steve Nash, notamment ça. Donc ça existe, ce fait de ne pas vouloir donner, parce qu'il y a cette lassitude et on voudrait récompenser quelqu'un d'autre, Fred.
Mais moi, je pense exactement le contraire, mais j'ai l'impression que Pierre Dorion est rentré dans le corps de Stephen Brun et a commencé à parler, à s'exprimer à sa manière. Non, alors moi, je pense qu'il faut lui donner tout simplement parce que l'année dernière, enfin les deux années précédentes, il s'est retrouvé un petit peu esselé. Nikola Jokic, il a fait tout seul, il a tiré son équipe complètement seul, il a fait ce qu'il fallait, etc. Maintenant, avec le retour de Murray et Porter, ben on s'est dit que ça va diluer forcément son activité, son impact, sauf qu'il est tellement intelligent qu'il l'a changé un petit peu, donc il prend moins de shoot, il est plus adroit, et il fait plus de passes décisives. Donc c'est-à-dire qu'il s'est complètement adapté au fait qu'il y ait des joueurs autour de lui qui sont revenus. Aaron Gordon, pour moi, a fait une excellente saison aussi, donc on se retrouve avec 4 joueurs capables de marquer du côté des Nuggets, alors un peu plus, hein, je schématise volontairement, mais 4 joueurs principaux capables de marquer, et dedans il y a Jokic qui s'adapte à chaque fois. C'est-à-dire que, en gros, t'as besoin qu'il marque des points, ok, il va marquer des points. T'as besoin qu'il fasse des passes, il va faire les passes. T'as besoin qu'il te prenne un shoot clutch, il va prendre le shoot clutch et il va le marquer. 23 triple-doubles cette année, et à chaque fois, victoire de son équipe. Ça aussi, c'est un symbole quand même. Pour moi, il faudrait lui donner. Après, est-ce qu'on va lui donner ? C'est plus compliqué, ça je l'ai déjà dit. À mon avis, le fait que ça soit un Européen, enfin un non-Américain surtout, qui puisse avoir et rentrer dans le cercle fermé, ça me paraît compliqué qu'on vote pour lui. Mais en termes de mérite, c'est lui largement pour
moi. Enfin, moi, ce qui me gêne aussi, c'est que si on lui file le titre de MVP, alors que pour moi, c'est pas le meilleur pivot de la Ligue. Et si t'es pas le meilleur pivot de la ligue, c'est compliqué d'être le MVP. Parce que pour moi, Joel Embiid est meilleur que Nikola Jokic. On l'a vu au mois de janvier lors de la confrontation où Joel Embiid a détruit Nikola Jokic. On l'a vu depuis le début de leur confrontation. Ils se sont affrontés cette fois. Joel Embiid a marché sur Nikola Jokic systématiquement. Et ça me gênerait qu'un mec prenne un troisième titre alors qu'il y a meilleur que lui sur son poste de jeu.
Ah, je sais pas si on peut dire qu'il y a meilleur que lui. Je pense que offensivement, Jokic est plus complet. Et je pense que effectivement, Joel Embiid, il a cette capacité à défendre que n'a pas. Même s'il a progressé, honnêtement, cette année, je trouvais qu'il fait plus d'efforts.
Il fait clairement pas.
Non, mais évidemment. Mais je veux dire, il a quand même progressé. Il partait de rien hein, au départ. Donc, il défend quand même beaucoup mieux. Je suis d'accord avec toi que si tu parles des deux côtés, Joel Embiid, il y a discussion. Mais sur l'impact vraiment sur son équipe, pour moi, Jokic est au-dessus.
Alors, Stephen ne veut pas donner un troisième titre de MVP à Jokic. Toi, tu veux, Fred. Et toi, Alex.
En fait, la question est toujours difficile de départager sur le rôle d'un MVP. Est-ce qu'on veut récompenser un mec qui rend les autres meilleurs ou est-ce qu'on veut récompenser le mec qui arrive à porter incroyablement bien son équipe ? Là, pour le coup, j'ai envie de le donner à Jokic parce que je vois cette équipe de Denver être meilleure. Maintenant, je suis obligé de rejoindre Stephen sur le fait que sur le plan statistique, comptable et tout ça, Jokic, c'est incroyable ce qu'il fait. Il est encore meilleur que sur ses deux premières saisons où il gagne le trophée. Sauf que quand je regarde en fait Denver à l'ouest, ils ont je sais pas combien de matchs d'avance sur Memphis. C'est une concurrence écrasée et que je sais très bien, et je pense que les gars ici savent très bien aussi, que le jeu dans cette saison, il est fait à l'est. C'est entre Boston, c'est entre Philly, c'est entre Milwaukee, où il y a les trois têtes d'affiche, Embiid, Antetokounmpo. Et Tatum, donc pour moi le titre de MVP doit revenir à un de ces trois là cette saison et je le donnerai pas à Jokic. Je veux juste rappeler quand même, Stephen faisait le clin d'œil le 28 janvier dernier, le gros affrontement avec Embiid et les Sixers, rematch remporté par les Sixers et un Embiid exceptionnel face à Jokic. Depuis, le Serbe il a quand même mis les bouchées doubles parce que c'est 9 victoires en 12 matchs pour Denver, 8 triples doubles en 11 matchs et il est à 15 rebonds en moyenne et plus de 66% de réussite au tir. Donc en janvier, on était tous là pour dire Tatum ou Embiid sur le leader de la MVP race. Bah depuis ce match-là, en fait, il a mis les bouchées doubles, Jokic, et maintenant il est en tête.
Après on verra, il y a une revanche le 28 mars entre les Sixers et Denver. On verra parce que quand c'est très serré comme ça et qu'il y a beaucoup de candidats, les performances, les confrontations, elles sont importantes, je pense. Et ce qu'a fait Embiid sur Jokic, c'est un marqueur dans la tête des gens. Poser 47, 18, 5 et 3 sur une rencontre face à ton concurrent direct, ça peut jouer sur la fin quand c'est tellement serré.
D'accord, c'est tellement serré que tout comptera.
Donc, exactement.
Évidemment, les...
Vous le savez, Nikola Jokic est un petit peu au cœur d'un running gag depuis un an dans Basket Time avec Pierre Dorian. Malheureusement, l'actualité a fait que nous faisons ce débat sans lui.
Pas Denver.
Le COMEX de Basket Time s'est réuni parce que vous le savez, il y a un COMEX à Basket Time. Et il nous semblait légitime de donner la parole à Pierre depuis son lieu de vacances, depuis le ski. Le message du patron.
Avec le recul, vous allez essayer de comprendre ce que je disais l'année dernière à propos du MVP Jokic. Je dis pas qu'il méritait pas son titre de MVP. Je disais juste que la campagne de playoff des Nuggets qui a suivi me fait me poser cette question toute naturelle. Est-ce un vrai MVP ? Est-ce que réellement le joueur dominant de la ligue s'appelle Nikola Jokic ? Avec vos esprits étriqués, vous avez eu du mal à comprendre cette remise en question. Sans remise en question, messieurs, dames, c'est fini, on meurt, terminé. Le problème, c'est pas le basket ou pas le basket, ils connaissent mieux le basket que moi. Le problème, c'est l'intelligence, Geoffrey. Ils sont complètement stupides, ils sont pas capables de raisonner, d'utiliser leur capacité intellectuelle pour avoir tout simplement une réflexion qui soit construite, qui soit intense soit peu, complexe. Ils ne se sentent bien que dans le simplisme. Ils sont simplistes, stupides.
Ah, il envoie Pierre. Hein.
Ouais, c'est parce qu'il est loin.
On a vu que la condition physique, c'était pas sa qualité première. Il a fait une phrase d'une minute trente, il est en apnée. Hein. Pierre Dorian. Il peut pas jouer à Denver en altitude. Hein.
Ah, peut-être qu'il bosse justement sur le cardio de cette altitude.
Ouais, je sais pas.
Peut-être des grands WhatsApp pour souffler pendant 3 minutes.
Peut-être qu'il prend du bon temps en même temps pendant qu'il fait une note vocale, je sais pas.
Voilà le petit clin d'œil de Pierre.
En fait, Pierrot comprend pas qu'un mec peut peut être éliminé au deuxième tour des playoffs ou en finale de conf et être MVP de la saison. Sauf que lui, il comprend pas que le titre de MVP de la saison, comme son nom l'indique, c'est la saison. Voilà, tu peux être MVP des playoffs ou MVP des finales si tu veux, mais le MVP de la saison, il récompense le meilleur joueur de la saison.
Et Jokic, il comprend pas l'intitulé du
Oui, ce qui est grave quand même.
C'est grave. Qui critique des gens en disant ils sont pas intelligents, il y a un intitulé disant MVP de la saison.
Rends ta carte de presse, Dorian, c'est scandaleux.
T'es triqué.
D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous proposer, messieurs. J'ai une question. Est-ce que vous voulez que ça...
Ça quoi ?
Ça compte déjà pour un point, si je vous pose cette question maintenant, avant le quiz.
Ah, vas-y.
Vous voulez ?
Vas-y, toujours.
Quel est le dernier MVP de la saison régulière à avoir été champion la même année ?
Le dernier MVP ?
Yanis ?
Non.
Dirk Nowitzki.
Steph Curry en 2015. Bien joué. Parce que derrière, on a eu Westbrook, on a eu du Yanis... du Harden, et donc ça remonte 2015. Donc voilà. C'est intéressant de voir. Il y a eu LeBron deux fois juste derrière, mais quand tu regardes dans l'histoire, le MVP de la saison régulière, c'est pas souvent qu'il gagne un titre NBA.
Voilà, et puis Alex l'a dit, à l'Ouest.
Un point pour Alex. Hein, ça
un point pour Alex. Alex l'a dit, à l'Ouest, il y a beaucoup d'équipes qui sous-performent cette année. Et Denver, qui a une ossature, ils se connaissent bien, même si les dernières, ils n'ont pas joué avec Murray ni Michael Porter Jr., mais ils avaient un vécu collectif qu'il y avait auparavant. Donc ils se connaissent bien, ils ont de l'avance sur les autres. Les Clippers ont été pétés. Les Warriors ne gagnent pas beaucoup de matchs.
Ouais, mais Stephen, tu ne peux pas t'en vouloir de numéro 1.
Non, pas du tout. Mais pas du tout
ce qu'il dit.
Mais pour dire que. En fait, il est en train de minimiser, entre guillemets, du fait que la concurrence
C'est juste que je trouve que la concurrence est plus faible à l'Ouest qu'à l'Est.
Concrètement,
toi-même, si tu regardes les matchs,
tu
as envie
d'autre que d'être numéro 1.
Non, mais Fred, t'as envie de regarder les matchs phares à l'Est cette saison. Il n'y a pas photo.
Évidemment.
Voilà, donc ça sera
que les médias américains.
Vous êtes plus excité par un Boston Philly ou un Milwaukee Boston ou un Milwaukee Philly que par un Denver Grizzlies.
Évidemment.
Moi, je suis un peu excité par Denver Grizzlies, mais parce que j'aime Ja Morant et j'aime bien Jokic. Mais
alors, ça peut faire
un gros carton.
Peut faire un bon film au cinéma, Denver Grizzlies contre Denver, le dinosaure. Ça peut être pas mal.
Exactement.
mais
bien sûr, évidemment.
Les pronostics, les Américains donnent Jokic favori à près de 60% pour ce titre de MVP. Embiid à 8%. Tu as parlé de la confrontation directe qui sera peut-être clé. Embiid est le seul à pouvoir empêcher Jokic d'être MVP. Le bilan des Sixers va peser si par exemple
ils ont trois matchs d'écart avec Denver. C'est pas
non mais par exemple
plus.
Si Embiid emmène trois matchs d'écart avec Denver, et même si Embiid emmène les Sixers en tête de la conférence S, ça peut tout changer
et ça peut même changer si Tatum continue avec Boston et
Yanis s'il évite les blessures, parce que là il a quelques pépins ces derniers temps, mais Milwaukee c'est incroyable ce qu'ils font sur la deuxième partie de saison.
C'est pour ça que je dis Jokic va pâtir des votes qui vont aller à Yanis, des votes qui vont aller à Tatum, des votes qui vont aller à Joel Embiid. Donc je suis pas sûr qu'on lui file. Et encore une fois, putain, ça m'emmerderait de voir Jokic sans bague, alors que les mecs, les Russell et les compagnies, ils ont gagné des bagouzes sur la triptyque.
Honnêtement, ça me fait de la peine que tu dises ça. L'apologie de la lenteur, toi et moi, on devrait être bien placés pour dire oui, on veut lui donner MVP, il a pas des grosses qualités physiques.
Mais moi, je kiffe
et on va
Jokic.
Lui donner l'MVP trois fois, merveilleux.
Je le kiffe, Jokic, mais Jojo, MVP, tu te rends compte, le premier MVP français de l'histoire.
Bah
incroyable
oui.
Quand même, Joel Embiid.
Qu'est-ce qu'on a de la chance, hein.
Attends, ça serait ouf, non. La Tour Eiffel serait en bleu, blanc, rouge.
Ouais, la ministre lui enverrait peut-être un message.
Exactement.
Et Nando répondrait. Non, je sais pas.
Voilà.
Quand tu vois l'histoire et ce que disait Stephen, les mecs qui ont été récompensés dans ce cercle très fermé, c'est que des gars de franchises mythiques.
Oui.
Faut se l'avouer, hein, c'est Philadelphie et Boston. Que des franchises qui ont gagné des titres, etc. Donc c'est vrai que peut-être que ça gêne aussi dans le conscient, l'inconscient.
Est-ce qu'ils sont vraiment gênés par ça, les Ricains? Ils ont de plus rien à foutre.
Ouais, mais Denver,
ça donne des cadeaux à tout le monde.
Denver, c'est clairement pas un marché sexy. Enfin, contrairement à Philly ou Boston, on est loin du compte.
On va parler des Nuggets toujours dans ce podcast Basket Time. On va s'intéresser collectivement à cette équipe, cet effectif. Est-ce que vous trouvez que c'est l'effectif le plus équilibré de la ligue?
T'as vu que les potatoes vont disparaître au McDo?
Oui, avec des trucs de légumes.
Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ça sera un autre débat. Peut-être qu'on peut faire un des débats annexes dans Basket Time.
C'est plus dur. C'est pas les Denver Potatoes, c'est Denver Nuggets.
C'est parti pour la partie 2. Est-ce que même les Nuggets peuvent-ils être champions NBA 2023? Murray into the corner, Caldwell Pope connects, another Jackson fires away and knocks it down. Murray step back three is good. Chanchar in the corner knocks down the three. Jokic offensive rebound finds Gordon cutting and slamming. Porter Jr. splash plus the pass. Est-ce que les Nuggets peuvent-ils être champions qui ont le meilleur bilan à l'Ouest, qui ont un excellent bilan également à domicile? Alex, cet effectif qui change quand même par rapport à l'année dernière, tu as déjà donné des pistes tout à l'heure quand tu réintègres Jamal Murray et Michael Porter Jr., auteur d'une saison quasi blanche l'an passé.
Et oui, premier facteur important par rapport à ces Nuggets, c'est les blessures qui les laissent enfin tranquille, contrairement aux saisons précédentes et les deux exemples que tu as cités, évidemment. Avant tout, troisième bilan de la Ligue, leader à l'Ouest, 43 victoires, 19 défaites, large leader devant Memphis. C'est une équipe qui attaque très bien, ça on le sait depuis longtemps. Sixième attaque de la Ligue avec les Lakers, 117 points en moyenne par match. Leader au pourcentage au tir, plus de 50%, donc c'est une équipe qui est efficace. Leader au pourcentage à 3 points, même si elle entend peu, elle est dans le panier bas de la Ligue par rapport au tir tenté à 3 points. Mais ça reste quand même 39% et plus, même en réussite. Et puis, surtout, une équipe voilà, qui a mis en place un jeu autour de Nikola Jokic qui se traduit évidemment par beaucoup de passes, 29 en moyenne par match. Seul Golden State fait mieux. Simplement, il faut aussi nuancer un petit peu tout ça parce que qui dit jeu de passe dit jeu à risque. Et c'est une équipe qui perd aussi énormément de ballons dans le flop 8 de la Ligue avec plus de 14 pertes de balles par match. Et ça a joué notamment sur certains résultats parce que malheureusement, les Nuggets parfois font preuve de trop d'irrégularité. C'est un rythme de jeu qui aussi est en contraste par rapport à ce qui se fait actuellement avec Golden State, avec Memphis, avec Minnesota. 19e sur le rythme de jeu en NBA du côté de Denver. Donc on essaye de ne pas trop non plus se précipiter. Et puis enfin, 24e sur 30 au pourcentage accordé à l'adversaire. On laisse évidemment beaucoup scorer en face du côté de Denver. Et ça, c'est la problématique depuis le camp de pré-saison où Mike Malone le disait déjà. Quand on regarde les dernières équipes qui vont en finale NBA, à chaque fois on se retrouve avec les meilleures défenses au rendez-vous. C'est ce qui nous manque actuellement. Et enfin, pour finir, Arnaud, la dernière fois qu'une équipe de l'Ouest faisait partie du top 10 défensif et a réussi à être champion, ne faisait pas partie, pardon, du top 10 défensif en réussissant à être champion NBA, et ben ça remonte à il y a plus de 20 ans. C'était les Lakers en 2001.
Bonne stat, hein.
T'as compris qu'ils étaient
champions. Je viens de jeter la pierre dans le lac, là.
Fred, est-ce qu'ils peuvent être champions déjà? Est-ce que tu considères qu'ils ont plutôt, allez, je mets des guillemets, mais un boulevard à l'Ouest quand tu vois qu'ils ont ce premier bilan? Et je regardais à domicile, 28 victoires, 4 défaites. Donc s'ils sont premiers, ils vont avoir l'avantage du terrain jusqu'en finale NBA.
Ouais, c'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. Alors oui, ils font une saison fantastique. Oui, ça joue bien. Alex a bien résumé les statistiques et ce qu'on voit réellement dans le jeu où le ballon circule bien, etc. Il y a des ballons, il y a effectivement des ballons perdus, mais c'est quand même plutôt beau à voir parce qu'ils sont efficaces en plus dans les shoots. Moi, j'aime bien leur roster. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de stopper défensif attitré, ils n'ont pas de mec capable de dire voilà c'est fini, on passe plus. Leur big man c'est pas un rim protector, même s'ils ont pris Thomas Bryant, c'est pas non plus lui qui va faire la différence de ce point de vue là. Donc je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'effectivement à l'Ouest ils devraient s'en sortir, ils devraient aller assez loin. Mais après quand ils vont comparer avec les équipes de l'Est qui sont très solides défensivement, je pense que ça va être très compliqué. Mais j'aime bien ce qu'ils ont fait. En récupérant Thomas Bryant par exemple, Reggie Jackson aussi à la place de Bones Island, je pense que c'est plutôt des bons apports. Leur équipe est bien structurée, mais défensivement ça va pêcher.
Pour toi aussi, il y a toujours cette même incertitude, Siphon, à savoir est-ce qu'ils peuvent step up en playoff.
Moi, j'y crois pas parce que je leur vois pas une marge de progression sur les playoffs. Je vois pas ce qu'ils peuvent améliorer dans leur jeu, alors que les autres équipes, eux, peuvent monter un petit peu plus haut. Je pense à Phoenix, je pense aux Clippers notamment. On a toujours pas vu Phoenix en configuration maximum avec Kevin Durant. Les Clippers commencent à avoir une vraie ossature forte, même si ça a perdu contre Denver après prolongation. Mais l'arrivée de Russell Westbrook, pour l'instant, se passe plutôt bien. J'ai un vrai problème défensif avec Denver, et Fred l'a dit, le fait qu'ils laissent des énormes pourcentages à 2 points aux équipes adverses, c'est parce qu'il manque de dissuasion de la raquette. Et on en revient à Nikola Jokic, qui est un piètre défenseur dans les airs et qui est un piètre défenseur sur pick and roll. Et aujourd'hui le jeu NBA, il est composé quasiment à 75-80% de pick and roll, et ils vont morfler là-dessus. Alors l'équipe, elle a gagné en profondeur de banc, ils l'ont dit, avec Reggie Jackson et Thomas Bryant. Bruce Brown est un bon joueur aussi, capable de faire des belles actions défensives en sortie de banc, c'est lui qui joue le plus en sortie de banc. Après, c'est un vrai casse-tête cette équipe de Denver. Ils ont 4 mecs capables de mettre des points, Jokic, Murray, Porter Jr. et Aaron Gordon. Et le casse-tête de cette équipe, c'est Nikola Jokic. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu défends sur Jokic? Tu viens doubler, t'es mort. parce que 10 passes décisives de moyenne et les 3 mecs derrière ils vont se régaler. Tu viens pas doubler, ils te cassent la bouche en tête de raquette ou sur le poste bas. Donc elle est très compliquée. Maintenant je vois des équipes capables d'aller plus haut avec des meilleurs rosters. J'ai l'impression que Denver est au max du max en fait déjà. Joue déjà leur meilleur basket en saison régulière et je sais pas comment ils vont faire pour step up sur les playoffs. Il faut absolument qu'ils aient le meilleur bilan de la ligue. Et tu l'as dit, ils sont injouables à domicile. Pourquoi? Bah parce que les mecs n'arrivent pas à jouer à 1700 mètres d'altitude. Ils arrivent, ils leur font un masque à oxygène. Ils n'arrivent pas.
Regarde Pierre Dorion, il était à 500
exactement.
Mètres déjà.
Il 500 mètres, il n'arrivait pas. Et c'est très compliqué d'aller gagner à Denver. 4 défaites cette saison. Et ce qui est marrant, vous savez contre qui ils ont perdu à domicile? Contre les Knicks, qui est une bonne équipe de basket en ce moment. Détroit, OKC. Ouais. Et les Mavs, ça veut dire qu'ils ont laissé passer des matchs ouais. qui étaient à leur portée. Donc moi je les vois pas, champions, je les vois même pas faire une finale de conf, ce qui est leur max du max. Dans la bulle, ils perdent contre les Lakers, je crois, en finale de ouais. conf. Moi je les vois pas aller plus haut parce que je pense qu'ils vont tomber. Surtout qu'en étant premier, tu regardes le classement à l'Ouest, ils vont tomber sur une équipe de merde. Phoenix est quatrième, les Clippers sont cinquième, ils vont avoir un premier tour.
Même peut-être... après celui qui sort du play-in, ça peut...
Même celui qui sort du play-in, il peut être relou.
Si c'est les Warriors, imagine.
Les Warriors, ils sont là. Enfin, les Lakers, même s'ils ont pété les Browns, il faut le dire, même si c'est une émission spéciale Denver, grosse inquiétude du côté des Lakers avec les Browns qui est peut-être out jusqu'à la fin de saison.
Un barreau d'honneur face à Dallas et fin de saison.
Donc ils vont avoir une demi-finale de conf qui va être affreuse. Donc moi, je les vois pas champion NBA.
On sent que les Clippers, tu les...
Moi, je les kiffe, les Clippers.
Bah oui.
Je l'équipe, c'est une
équipe. On a failli faire une émission sur les Clippers. Bon,
c'est une équipe de mutants. C'est une équipe
de mutants. Et avec Kawhi et Paul George qu'on voit presque enfin parce qu'ils ont joué peu de minutes, on a failli faire un débat sur.
Kawhi, j'ai jamais vu un mec aussi facile au basket en fait. C'est
incroyable.
Très fort. Et des deux côtés lui aussi.
Et des deux côtés.
Ouais. Alex, ton avis, tu partages ce qui est dit sur Denver qui plafonne?
Bah ouais, parce que quand je les écoute attentivement, en fait, ça me fait tout de suite penser à cette superbe équipe de Utah qui dominait la saison régulière dernières saisons et qu'à chaque fois, on était obligé.
Encore une ville en altitude. Hein.
De dire ici, dans ce même studio, que bah ouais, c'est très sympa à voir. Ils sont très très forts à la maison. Ils sont toujours premiers de la conférence. Et puis voilà, on les voyait pas du tout passer les étapes en play-off, malheureusement. Donc là, on se retrouve un petit peu avec peut-être le même cas de figure. Je dis pas du tout que Denver joue comme Utah. Hein. C'est pas du tout le même style.
Pas pour les mêmes raisons.
Mais sur le petit marché qui n'arrive pas à convaincre pleinement, alors que voilà, ils dominent sur des saisons peut-être un peu plus faible entre guillemets à l'Ouest. Je fais le comparatif assez facilement.
En vous écoutant, j'ai envie d'être radical. Est-ce que Nikola Jokic peut être un jour champion NBA par rapport à ce que vous me décrivez là? Je sais que c'est dur. Et
Après, la question, trouver une autre configuration
d'équipe, qu'est-ce qu'il faudrait?
La question, on peut la faire pour beaucoup de mecs. Hein.
Mais la question, c'est
un double MVP en titre.
Dans cet état de forme ou pas déjà? Parce que si c'est dans cet état de forme, moi je pense que non. Parce qu'il faut encore
une fois. Mais par rapport à ses caractéristiques, vous me disiez, compliqué en défense.
Souviens-toi, Kevin Garnett à Minnesota. On pouvait se poser la même question à l'époque. Hein.
Elle est partie pour.
Et il l'a dit depuis, tout est possible.
Après, j'ai l'impression que le marché de Denver correspond bien. Le marché de Denver correspond bien à un garçon de la personnalité de Nikola Jokic.
Ah oui, on le voit pas. Il est à Los Angeles.
Moi, je le vois pas. Je le vois pas dans une franchise bling bling. Nikola Jokic. Je vois, il y a une vraie osmose avec Mike Malone.
Peut-être sur sa fin de carrière, lui aussi, pour aller choper une bague. Mais en l'état, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Parce que sa défense est trop douteuse et trop suspecte pour pouvoir apporter.
Denver, ça colle bien. Ça colle bien. Après, attention, l'équipe, elle est correcte. L'équipe, Jamal Murray. Rappelez-vous dans la bulle, on parlait de la bulle. Jamal Murray, rappelez-vous face à Utah. Donovan Mitchell, c'était 50-50-50. Les mecs étaient monstrueux. Ils ont une vraie équipe de basket, mais je trouve qu'ils sont pas suffisamment armés par rapport à ce qui va se présenter face à eux. Voilà.
Merci pour ce débat, messieurs.
Après, ça se trouve, ils vont gagner votre championnat de NBA.
On leur souhaite.
En tout cas, on leur souhaite.
Avec la stabilité, on leur souhaite. En tout cas, on leur souhaite. On les salue. Le vote 5 majeur historique des Denver Nuggets, c'est parti dans Basket Time.
The 1991 offseason would give Nuggets fans a glimmer of hope when they drafted Georgetown center Dikembe Mutombo. They also acquired a young dynamic power forward named LaPhonso Ellis. The Nuggets would pick up Michigan guard Jalen Rose with the 13th pick in the 94 draft. The 2003 offseason would usher in a new era in Nuggets basketball when they selected Syracuse's Carmelo Anthony. Iverson gave the Nuggets an elite scorer to pair with Melo.
C'était le Siri version masculin.
Ouais, donc grave. C'était qui ça?
Et on met une chanson donc de Virginie Occidentale sur le Colorado. Quoi.
Ah, c'est une chanson de Virginie Occidentale ça?
Bah, le mec l'a littéralement dit dans la phrase.
Ah ouais?
Donc il y a bien 5000 km.
Qui a fait la prod là?
Je crois que c'est le monsieur derrière la
vitre. Je crois que c'est Pierre Dorian.
Il a pris un truc au hasard. Et tiens, ça sonne bien. Ça, c'est de la country. Ça sonne bien avec le Colorado.
Ça fout de ma gueule, Geoffrey Sharpie. Il a dit West Virginia, le gars.
Une franchise sans titre. Quatre finales de conférence dans son histoire. Vous l'avez dit, la bulle. Il y avait eu également 2008-2009 face aux Lakers. À vous de faire ce 5 majeur historique. Est-ce que ce fut dur, Fred?
Ce fut... Non. J'ai pas envie de dire que ce fut dur, non. On l'a dit.
Il y a plein de bons joueurs, il n'y a pas forcément d'immenses...
Exactement. Ah. Donc je vais commencer mon petit 5. Donc, en poste 1, j'ai choisi Mahmoud Abdul-Raouf. Alors, pour plusieurs raisons, il était drafté en 90 par les Nuggets, justement, 3e position, 6 saisons à Denver, 16 points, 4 passes. Il a même joué au Fener avec Zan Tabac à l'époque. En fait, je l'ai choisi pour la raison, parce que c'était un très
battu.
Bon joueur. Parce
qu'il était... Zan, il a tabaché.
Ok. Et donc, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Alors oui, c'est un très bon joueur de basket, avec beaucoup d'énergie, capable de faire plein de choses pour un moment de jeu, mais aussi parce qu'il avait un syndrome de la Tourette, et il s'est battu contre ce syndrome toute sa vie, et ça a été compliqué. Donc voilà, beaucoup de respect pour ce joueur, et c'est un joueur qui m'a beaucoup plu à l'époque. J'avais son poster dans ma chambre. Donc,
syndrome de la Tourette, voilà. sans les insultes, je crois.
Je crois qu'il y avait quelques insultes, mais
ta gueule
c'était, voilà, c'est ça. Exactement. Ensuite, j'ai choisi Alex English, parce qu'il a été drafté en 76.
Damien, oui. Festival. Alors là, il s'est retenu pendant une demi-heure.
Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'en peut plus. Là. Et donc, il est drafté par les Bucks en 23e position. Meilleur scoreur de NBA en 83. Meilleur scoreur all-time des Nuggets. 11 saisons à Denver. 837 matchs. 26 points. 5,6 rebonds. Un joueur extraordinaire. Un joueur qui a côtoyé plein de joueurs très athlétiques à son époque. Et pourtant, il s'en est sorti magnifiquement bien. Ensuite, j'ai choisi Carmelo Anthony parce que Carmelo Anthony est passé aussi à Denver. Il a joué 8 saisons là-bas à presque 25 points, 6 passes. 6 rebonds, pardon. Voilà, parce que Carmelo Anthony, tout simplement, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter par rapport à ça. Et ensuite, bon, j'ai pris Nikola Jokic en poste 4, j'ai un petit peu triché, donc on va pas revenir sur Nikola Jokic parce qu'on en a parlé suffisamment.
Oh, qui en 5? Je suis surpris.
J'ai forcément choisi Dikembe Mutombo parce qu'il a été 3 fois meilleur contreur de la NBA en 94, 95, 96, pendant qu'il était à Denver. Il était meilleur défenseur aussi une fois quand il était à Denver. C'est 13 points, 12,3 rebonds de moyenne et presque 4 comptes de moyenne à Denver. Alors j'avais un petit sixième, il s'appelle...
Alors
Dan...
attends, on va...
juste laisse-moi terminer. Il s'appelle Dan Issel et oui. En fait, il a joué plein de matchs à Denver, très bon joueur, 20 points, 8 rebonds, mais c'est surtout qu'il a joué pour les Colonels de Kentucky et il a joué pour les Nuggets, je trouvais ça très très bon. Donc voilà, ça m'a fait rire.
Merci.
Colonels de Kentucky, non?
Oui, on l'a. Stéphane, est-ce que ton 5 est différent de celui-là?
Ouais.
La mène, peut-être?
Je suis surpris, j'ai Jokic au poste 5 comme Fred et j'ai Carmelo sur le poste 3. À la mène, j'ai Fat Lever. 6 saisons avec Denver. Dans l'histoire des Nuggets, c'est le joueur qui a fait le plus d'interceptions. C'est le deuxième garçon au nombre de passes décisives. 8e au point inscrit, 10e au rebond. Leader en nombre de triple-double avant l'arrivée de Jokic. Il a fait 43 triple-double. À l'époque, on sait que lâcher les triple-doubles, c'était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. Il a été 2 fois All-Star. Et il a record de passes de la franchise Denver avec 23 passes décisives, dont 16 en une mi-temps. Voilà. Et pour la petite anecdote qui sert à rien, j'ai joué avec son fils, Fat Lever Pedrosa, à Lasvel, qui était beaucoup moins bon que son père. Je tiens quand même à le préciser. Sur le poste 2, j'ai David Thompson.
Oui.
7 saisons avec Denver, 4 fois All-Star, MVP du All-Star Game, 2 fois First Team, et surtout 73 points sur un match. C'est encore la 4e performance all-time. Premier choix de draft en 75. Voilà, David Thompson, joueur élégant. Poste 3, Melo, je l'ai dit. Voilà, exactement. Et au poste 4, j'ai triché un peu, j'ai pris Marcus Camby. 6 saisons avec Denver, double-double de moyenne, 3 fois meilleur contreur de la ligue, comme Dikembe, sous le maillot des Nuggets, meilleur défenseur de l'année en 2007, et 2 fois dans le meilleur 5 défensif. Et voilà, j'aime bien Marcus Camby, parce que là, il y a beaucoup de scores, donc il faut qu'il y ait un mec qui fasse les basses besognes.
C'est pour ça que j'avais choisi.
Voilà, bravo.
Est-ce qu'il y a une touche bigger staff par rapport à ces 5 proposés?
Ça ressemble beaucoup à celui de Stephen quand même. Obligé de mettre Lafayette Lever quand même au poste de meneur, parce que c'est l'un des blazes les plus incroyables.
Travail aux galeries maintenant.
Exactement. Un des blazes les plus incroyables de la NBA pour toutes les raisons évoquées. Un sorte de Westbrook de l'ancien temps. David Thompson, je l'ai mis au poste 2 pour moi parce que en fait, ce mec-là, tu pourrais écrire 40 livres sur sa vie, son histoire. C'est incroyable. L'un des premiers donc high flyer de la NBA, hein, des premiers mecs à aller au cerceau pour dunker. Mais cette petite anecdote aussi, $1,000 par jour qu'il investissait dans la cocaïne justement pendant sa carrière NBA, parce que c'était un de nos
j'espère que les saisons étaient
chers drogués addicts.
Il a fait la première partie de Pierre Palmade.
Incorrigible. Là, c'est un festival, je ne sais plus quoi dire, mesdames et messieurs.
Et l'histoire finit bien parce qu'il s'est reconverti à fond dans le christianisme et est devenu un bon évangéliste pour prêcher la bonne parole.
Je m'en fais peur quand tu m'as dit qu'il s'est converti dans
le... Alex English au poste 3 parce que meilleur scoreur de la saison NBA 1983, 8 fois All-Star. Carmelo Anthony, je le décale au poste 4 parce que pour moi, il a quand même réussi un truc de dingue, même s'il n'a pas remporté de choses avec Denver. Il fait quand même la première finale de conf oui. de la franchise depuis 1985. Ils sont battus 4-2 par les Lakers avec George Karl.
Ils font les playoffs toutes les saisons avec Melo. Et Melo, pendant longtemps, était le meilleur marqueur sur un carton avec 33 pions, ce Melo Denver, depuis battu par Klay Thompson.
Et un style inimitable, ouais. évidemment, à son arrivée. Et enfin, j'ai mis Nikola Jokic. Désolé pour Dikembe, qui est clairement le sixième homme, mais Nikola Jokic, qui lui aussi a ramené Denver en finale de conf en 2020.
Alors, j'avais mis une liste de joueurs. Chauncey Billups.
Ouais,
pas loin.
Après, Chauncey, c'est plus Détroit.
Hein, Détroit
c'est
ouais.
plus Détroit, effectivement.
C'est comme Iverson, c'est ouais. plus.
Comme je l'avais, tu vois, Allen Iverson. Ou Antonio Magdalès aussi, j'avais dans une liste qui est un peu
Néné.
Derrière, mais qui a marqué.
Néné.
Néné Hilario.
Il n'y a pas de jeu de mots.
Néné Hilario.
Le mec, il me regarde comme si, bon, vas-y, fais ta blague.
Je l'ai pas.
Néné, le Brésilien.
J'ai bien compris. Voilà. Vous êtes prêts pour le quiz?
Oui, vas-y.
Le quiz spécial Denver Nuggets et aussi un peu Nikola Jokic.
Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier, c'est parti chez
Sting. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là,
c'est
après ou pas?
Je vais tout arracher.
Ah, je l'ai. C'est un mec qui... C'est... Enes Kanter.
Non. Pour le bonnet d'âne.
Ouais.
Ouais. Mon deuxième a volé l'orange.
Jamichael Green.
Théo Tosic, il est là, mais Steph, tout
merde,
vert,
merde.
Andrea Bargnani.
Daniel Ena Cornflex.
Daniel Ena Cornflex.
Mais pourquoi je vois un demi?
Vous voulez pas respecter les rouquins, les amis? C'est ça votre problème.
I-en.
Je vois qu'à l'Eurobasket, tu as été un vrai producteur de jingle pour le quiz. Hein.
J'étais à côté de toi.
Mais oui, exactement. C'était un bon souvenir, même si évidemment, on n'a pas eu cette médaille d'or à l'Euro. On commence par ce quiz. Un petit extrait sonore, dites-moi qui parle.
J'ai pas réalisé sur Tariq le coup, Abdul-Wad. J'ai pas réalisé que c'était John Starr.
C'est là, Tariq Abdul-Wad.
Il a joué à Denver, non?
J'ai l'impression qu'il y a Tariq Abdul-Wad dans les réponses toutes les semaines.
Ouais, moi, je pense que je vais me le noter.
C'est comme la mer Noire.
Tariq Abdul-Wad.
Voilà, avec sa petite voix fluette, Tariq Abdul-Wad, le premier Français à avoir marqué un panier en NBA. On est d'accord.
On est d'accord.
On est d'accord, oui.
D'accord. Pouvez-vous me citer les autres Français qui ont joué à Denver? C'est un quiz enchère. Vous me dites votre proposition avant. Et on commence par le moins bien classé. Je rappelle qu'Alex a eu un petit point tout à l'heure.
Merci.
La Stephen est à un point. Fred, tu commences. Combien de Français qui ont joué à Denver peux-tu me citer? Évidemment, on retire Tariq Abdul-Wahad.
Ah, on retire Tariq Abdul-Wahad.
Ah, oui.
Ah, c'est con, j'allais dire un. Deux.
Deux pour Fred.
Trois.
Trois.
Cinq.
Ah.
Vas-y.
Vas-y, bah, je sais pas.
Peut-être. Bah, non, merci.
Je pense que...
Peter Carnelly.
Oui.
C'est pas bon. Dis-moi quand c'est bon. Bah,
c'est bon.
Je l'avais pas sur ma liste, mais je vais vérifier.
Mais
pour moi c'est bon, mais je l'avais pas sur ma liste. Ah. C'est juste que j'ai.
Ou alors il a juste été signé, il a pas joué.
Non, je crois qu'il a joué. Hein.
Il a joué.
Yacouba Diawara.
Alors j'ai fait n'importe quoi sur ma liste parce que.
En fait, il y a pas un gars.
Mais j'ai pris une liste.
En fait, il y a 27 Français.
Yacouba Diawara, il a joué à Denver
aussi.
Ah vache,
c'est bon. Il a joué à Denver, Yacouba Diawara.
Ouais, c'est bon.
Geoffrey Lauvergne, c'est bon.
Oui, c'est bon. 83 matchs.
Evan Fournier.
4. Evan Fournier, c'est bon.
Joan Petro.
Ouais. C'est bon.
Bah, c'est bon. Axel Toupane.
Oui. Oh, t'as explosé, là, t'es à 6, je crois.
Bah, c'est bon.
Oui, c'est bon. Tout. Bah, bravo, Stephen, 2 points.
J'ai même rajouté des noms que t'avais pas sur ton papier.
Exactement. Bah, écoute, j'ai pris une liste, tous les joueurs de Denver, j'ai descendu. Mais oui, effectivement, je le vois très bien sous le maillot.
Yacouba Diawara
et Peter Cornelis juste avant oui. qui reviennent en Europe. Donc bravo Steve, tu prends la main. 3 points, 0 pour Fred, 1 pour Alex. Savez-vous qu'un ancien joueur du PSG a le même surnom que moi? Qui suis-je? Et j'ai joué à Denver.
Hein? Joker?
Non, un ancien joueur du PSG a le même surnom que moi.
Ah, Néné!
Bah voilà. C'est pour ça que je faisais une drôle de tête quand tu m'as sorti Néné.
Je me disais Néné, il me regarde comme si je faisais n'importe quoi, je comprenais pas tout à l'heure.
Et oui, c'est parce que j'avais prévu une question sur Néné Hilario. Vous connaissez son vrai prénom?
Robert.
Mais Bainer Rodney Hilario.
Comment?
Maybiner,
Maybiner,
Rodney, Hilario.
Il a mieux Néné, du coup.
Ouais, Néné, Hilario.
Quart de finale des Jeux avec un joueur qui était surnommé, il s'appelait Marcus Vinicius, drafté par les Hornets à l'époque. Et vous saviez son surnom, Marcus Vinicius ? En 2012 à Londres, quart de finale des Jeux, on l'appelait Marquinhos.
Ouais. Marquinhos, exact. Ah oui, oui, exact. Un shooter.
Et Marquinhos et Néné, ouais. Déjà en basket avant tout le monde. Bon, bravo Fred. 4 points, 0 pour Fred, 1 pour Alex. C'est pas terminé. En 74, Denver quitte l'ABA pour la NBA. Voilà la fameuse fusion qui fait la ligue unique. Mais pourquoi Denver doit changer son surnom ?
Parce que c'est les Rockets de Houston. Ouais. Il s'appelait les Rockets,
c'était déjà Houston. Et bon,
ouais, c'est là.
C'est la ruée vers l'ouest et donc ouais. Les pépites.
C'était les Denver Rockets et ils ont changé. Ils ont
en Rockets, on se passait à pépites plutôt que les Rockets.
Mais on ferait de la télé. Enfin,
moi, c'est Stephen.
Stephen, oui, pardon, t'es injouable. Quiz. Alors, donc, ça fait
5 points, quiz,
pour,
ouais,
ça fait 5 points pour Stephen, 1 point pour Alex. Pour 2 points, chacun votre tour, citez-moi un coach qui a entraîné les Nuggets.
Bon, je commence. Mike Malone.
C'est bon. Allez, Alex. C'est pas évident parce que...
Bernie Bickerstaff.
Oui.
Tu l'as sur ta liste ou pas?
95-96.
George Karl.
George Karl, oui. Le regretté George Karl. Fini?
Ouais. Bon, D'Antoni, ouais. Mike D'Antoni.
Oui. Une saison,
90. Ça sort d'où, Mike D'Antoni, ça?
Je sais pas.
Ah, ok.
Je sais pas. Oui,
c'est le seul nom qui me sera revenu.
Alex, les coachs qui ont entraîné les Nuggets.
Larry Brown.
Larry bien Brown, sûr. Le tout premier à l'époque NBA, effectivement 5
tout
ans.
Tout genou.
Pour Larry Brown, qui les a amenés en finale en 76 de l'ABA.
Je vais tenter Doug Moe.
Oui, qui a son maillot retiré, je crois.
Exactement.
Doug Moe, 10 ans, 80-90. Alex.
Les gars, vous
ah, il est
vous...
plus, Fred ?
Non, il est... Ah, si, bah, si,
si,
pardon,
il est...
Pardon,
pardon.
Il est plus,
il a entendu des voix.
Mais vous avez vécu là-bas ou quoi, les gars ? C'est pas possible.
Peut-être prémonitoire.
Ah non, c'est bon. Moi,
c'est
je...
bon, c'est... Merci, Fred.
Merci, c'était
ça. Il reste combien, là ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ah ouais, d'accord.
Bah, de 74 jusqu'à 2023, ça en fait un petit peu. Il y en a que vous pouvez trouver, il y en a
putain,
un.
De 74 à 2023 à Limoges, ça ferait 1394.
À l'émission durait 24 heures. C'est... Alex, est-ce que tu as quelque chose ? Merci, t'as commencé, merci. Donc pour l'instant, il y a égalité.
Je pense qu'il a été dirigeant, mais pas coach. Mais
après, il y a les intérimaires, ça compte, parce qu'ils ont été sur le banc.
Mais je vais dire Kiki Van de Veeg.
Ah, Kiki.
Je n'ai pas Kiki Van de Veeg.
Je pense qu'il était, général manager.
Ça marchait,
mais pas...
ça, les mecs qui ont les mêmes surnoms que les joueurs du PSG, Kiki. Ça marchait, Kiki Van de Veeg, ça marchait aussi.
Et sa fille s'appelle Coco et elle fait du tennis.
Oui, exact. C'est
je ne sais pas si elle joue encore, tombait un peu, Coco Van de Veeg.
Ouais, non, il a été dirigeant, mais pas coach, du coup.
Brian Shaw, c'est bon. Effectivement, 2013-2015, il y avait un petit intérim avec Melvin Hunt. Ensuite, avant George Karl, 2004, Michael Cooper, qui était un intérimaire. Il y a eu Jeff Bzdelic. Je sais pas comment on disait.
Ouais, okay.
Mike Evans, Danny Sell a coaché.
Le Michael
Bill
Cooper, c'était
Hansley,
le Michael Cooper.
Dick Motta, ça a beaucoup changé dans les années 90.
Dick Motta.
Paul Westhead au début
Thiago
des années
Motta,
90.
PSG encore.
Et Donnie Walsh qui a fait une saison 79-80. C'est vrai que c'est pas... Il y a quelques bons noms. George Karl, évidemment.
Oui, George Karl,
mythique.
Iconique,
bien sûr.
Il reste longtemps.
Mais il y a un peu de stabilité quand même, tu vois. Hein. George Karl...
Malone, c'est depuis 2015, je crois.
Depuis 2015, c'est effectivement. Donc, 2 points pour Stephen qui est en train de plier totalement ce quiz.
Ah, c'est pas fini.
Il n'a pas plié déjà.
Écoute, on va voir.
Parce que moi, j'en peux plus.
Un vrai ou faux sur Nikola Jokic.
Un vrai ou faux en tour de table ?
Non, je vous pose la question directement. Les yeux dans les yeux. C'est pour un point.
Les yeux dans les yeux.
Fred. J'ai réalisé un triple-double en 14 minutes. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Je parle
c'est
de Nikola Jokic.
C'est possible.
T'es sûr ?
Non, mais c'est fort possible.
C'est vrai, en février 2018 contre Milwaukee.
Oui,
14 minutes.
C'est ouf.
C'est quand même dingue. Alex, j'ai été élu rookie de l'année.
Faux.
Oui, faux.
C'est
faux.
Oui.
C'est faux. Qui était devant ? Vous le saviez ?
Non. C'était quelle année ?
2015.
Crois. Ou peut-être 2016, puisque devant, c'est Karl-Anthony Towns et Kristaps Porzingis. A posteriori, voir Jokic derrière Towns ou Porzingis...
A drafté bien plus loin.
Oui,
aussi. Et puis là, c'est vraiment le profil de joueur qui éclate plus tard. Donc Alex, c'est bon. Et enfin, Stephen, je suis le deuxième joueur de l'histoire à avoir réalisé un triple-double à plus de 30 points, 20 rebonds et 10 passes.
Attends, elle est complexe, il faut que je la refasse.
Je suis le deuxième joueur de l'histoire à avoir réalisé un triple-double à plus de 30, 20, 10.
T'inquiète pas, t'as 14 points d'avance.
30, 20 et 10 ?
Ouais. Deuxième joueur de l'histoire.
Ouais, parce qu'il me semble que l'autre, c'est Luka Doncic, donc je veux dire oui.
Non, c'est faux.
Ah, c'est faux. Très bien.
C'est le troisième avec Wilt, Chamberlain et Abdul-Jabbar.
D'accord, très bien.
Avoir fait ce genre de triple-double. Donc, bah, vous revenez, c'est bien, sur Stephen, qui a 3, 4, 5, 6, 7.
Il a plus de part pour mettre des barrettes.
Enfin, dernier quiz. Tu choisis ce que tu veux faire all-in ou pas ou...
Bien sûr, je fais all-in.
Allez. Pour terminer, nous sommes le 10 août 2016. Match de poule des Jeux Olympiques à Rio. Serbie-France. Victoire des Bleus 76-75. Oh, chacun votre tour, oh, citez-moi les joueurs qui ont joué. Évidemment, je retire Nikola Jokic qui a joué 20 minutes pour 2
2016
points.
2016 à Rio.
4 passes. Rio 2016.
En poule.
On gagne 76-75. Bah, comme Siphon a décidé de faire all-in, on lui laisse le privilège de commencer.
Les deux équipes.
Les deux équipes. Les joueurs qui ont joué.
Ok. Très bien. Je veux dire Tony Parker.
Tony Parker, c'est bon.
Ça a duré longtemps. Là.
Flo.
Me dis le nom comme ça, on sait jamais.
Bah, il tu connais le Flo.
On sait jamais.
Cinéma Pongol.
Alex.
Nico. Batum.
Nico Batum, oui.
Steve. Boris.
Boris.
Vio.
Oui.
Vian.
11 points pour Boris Dio.
J'aurais dit Mike Gélabal.
Mike Gélabal, et oui, c'est bon. Vous citez que des Français, on pouvait citer des Serbes.
Oui, attends, s'il te plaît.
Alex.
Rudy Gobert.
Rudy Gobert, c'est bon, 3 points. 0 sur 1 au tir, il a mis 3 lancés.
Thomas Hurtel.
Thomas Hurtel, c'est bon. 18 minutes, 5 points.
Là, j'ai un doute.
4 rebonds.
Moi, je dirais Ali Traoré, mais je ne suis pas sûr.
Non, c'est à Londres, Ali.
Ouais, c'est à Londres. Vous savez qu'il avait fait une Olympiade, bon. Je ne sais plus laquelle.
Net. Fred éliminé.
Son anniversaire, en plus, Ali, aujourd'hui.
Oui, ouais. Exactement.
C'est pour ça que j'ai pensé.
Ce mardi. Ouais. Alex.
Alex, ça va partir sur les Serbes, j'ai l'impression. Là.
Il reste 1, 2, 3, 4 Français. Et il reste 12 Serbes. Alors, le match de poule. De Rio, des Jeux de Rio en 2016, la Serbie, qui est allée chercher la médaille d'argent.
Teodosic.
Ouais. Milos Teodosic, évidemment. Oui. Ça commence à taper chez les Serbes.
Non, il ne fallait pas.
Je vais aller Bogdanovic.
Le prénom
Bojan, bon. Bogdan, je ne sais plus.
Bogdan. Ouais, bah, Bojan, c'est le croix. Il y a le croix.
Bogdanovic,
c'est bon, 10 points. Monsieur Biggerstaff.
Léo Westermann.
Léo Westermann.
Aïe, aïe, aïe.
Non, je crois pas.
Et
qu'il
non
ah, Léo
bon.
Léo, tu me trahis.
Et donc, Steph a commencé, t'as gagné. Donc,
je vais tenter Nemanja Bjelica.
Oui, qui finit... Bjelica. Non, je n'ai pas Nemanja Bjelica, j'ai un autre Nemanja. Mais je n'ai pas Bjelica.
Mona Nedovic.
Oui, j'ai du Nedovic.
Oui, mais j'ai faux. Je vais dire
bah, oui, t'as faux, mais bon, t'avais commencé.
En poste 5, c'était qui, Agen ça.
Alors, on finit sur les bleus. Il y avait Nando Docolo. Nando Docolo, meilleur marqueur.
Hein,
vous n'avez pas dit Nando?
Non, on n'a pas dit Nando.
Ah, 22
non,
points. Non. Antoine Diot, Geoffrey Lauvergne et Charles Cahudi. Oui. Ah, est effectivement présent. Chez les Serbes, je vous le fais. Stéphane Bircevic, 3 minutes. Hein. Nikola Jokic, Stefan Jovic, Nikola Kalinic, Nemanja Nedovic, Milan Makvan, Stefan Markovic, Radulica, Simonovic, Stimac. Et puis on a le petit Théodosic.
Il n'a pas fait un gros match d'ailleurs, Stimac. Hein.
5 points en 12 minutes.
Voilà.
Merci pour un Steph qui est monté façon diesel sur les blagues. Bravo. On te remercie. À très vite.
Ciao, ciao.
Pour un nouveau podcast. Merci, messieurs. Ciao.
RMC Basket Time.